2007, et dont je vais moi-même essayer de dresser un portrait, ou plutôt un autoportrait, puisque témoigner sur la fatigue, aborder ma fatigue, c'est forcément parler de moi. Et quoi de plus intime que de décrire cette expérience profonde liée à un événement de vie aussi sensible ? Je me suis donc demandé comment vous en parler, sans avoir l'impression de trop m'exhiber. Et il m'est apparu que la seule manière de pouvoir le faire, c'était de passer par la créativité. Bon, il n'y a pas de grande révélation, c'est ce que je fais depuis toujours et c'est devenu mon métier. Comme art thérapeute, j'accompagne les personnes à parler d'eux par le détour de la création théâtrale et donc je me suis moi-même prêtée au jeu. J'ai attrapé le taureau par les cornes et je me suis directement adressée à la bête en lui écrivant une lettre. Et c'est ce que je me propose de vous lire ce matin. Voilà. Ma chère fatigue, en t'écrivant aujourd'hui, je me rends compte que je n'avais pas pensé à toi depuis longtemps. D'ailleurs, le temps s'est bien accéléré depuis ton départ. Il y a tant à vivre que ton histoire ne m'intéresse plus tellement. Cependant, ma vieille, je n'oublie pas le chemin que nous avons parcouru ensemble. Ça doit bien faire 2 ans que tu m'as quittée sur la pointe des pieds et les traces de ton passage ne sont plus tellement remarquables. Aujourd'hui, s'il m'arrive de me dire fatiguée, c'est que je côtoie l'une de tes anciennes lointaines cousines, au style bien rangé et très poli. Rien à voir avec toi et tes allures de punk anarchiste. Je ne pouvais pas te manquer quand tu as débarqué dans ma vie. Tu t'en souviens ? Décembre 2013. Sans préavis, tu t'offres une entrée triomphale dans mon corps. Tu as commencé par me scier les jambes dans tous les escaliers. Il y a beaucoup d'escaliers dans Paris. Puis tu m'as empêché de me lever à l'heure pour aller en cours. Tu me stoppais net tous les 5 pas. Et tu n'hésitais pas à me couper le souffle en plein milieu des conversations. Autant dire que tu as vraiment ruiné mes vacances au ski cette année-là. Bon, je sais bien que sans toi, je ne serais jamais allée voir le médecin qui m'a envoyée aux urgences. Mais avais-tu besoin d'être aussi envahissante ? Pendant des semaines, j'avalais des litres de café et de vitamines sans comprendre. Quand j'ai appris le diagnostic, j'en ai pleuré de soulagement en pensant que c'était fini, qu'on allait enfin m'aider à me débarrasser de toi. Tu me préoccupais tellement que j'ai mis des jours à comprendre que tu étais loin d'être le seul problème dans une leucémie et que j'avais d'autres choses à gérer. Ma famille, mes amis, la fac, les cours de théâtre, mon histoire d'amour. Et oui, ma vie de jeune femme de 20 ans venait d'éclater en morceaux et je devais essayer de survivre à ça. Tu n'as pas rendu les choses faciles, loin de là. Il faut dire que tu t'es fait chouchouter à l'hôpital. On t'a bien boosté à l'arrivée. Pendant que tu grossissais à siroter tranquillement des chimios, moi je maigrissais sur mon lit. Tu te régalais du peu de force qu'il me restait. Je n'avais plus qu'à regarder le plafond en attendant que ça passe. Parfois, j'avais la sensation de quitter mon corps, de te laisser une enveloppe vide comme seule compagne. Dans cet immense désert où tu régnais en maîtresse, j'essayais de me rappeler ce qu'avait été la vie sans toi. Je croyais fermement que ça n'arriverait plus jamais. D'ailleurs, les personnes qui entraient dans ma chambre, devenues mon univers tout entier, tombaient nez à nez avec toi. Tu leur faisais la conversation pendant que je me demandais comment elles pouvaient tenir debout aussi longtemps. Qu'est-ce que tu radotais devant mes proches, devant les soignants et toutes les personnes qui défilaient ? Parler de toi encore et encore, toi et ta grande copine la douleur. Je devais me battre pour trouver un autre sujet de conversation. Et même quand j'y parvenais, tu déformais mes propos, me rendant susceptible et capricieuse. Tu m'empêchais de voir la détresse de ceux qui m'aimaient et me voyaient souffrir, de voir la volonté de ceux qui me soignaient. Eux aussi étaient fatigués. J'ai dû apprendre à me pardonner cet égoïsme depuis. Mais à l'époque, tu étais trop présente pour que je réalise vraiment ce que je disais, ce que je faisais, ce que je montrais, et qui pourtant marquerait longtemps les visages aimants qui m'entouraient. Quand ceux-ci me quittaient et que je t'avais pour moi toute seule, Tu changeais d'aspect. C'est à moi que tu t'en prenais, m'asseyant de découragement, de colère et d'idées noires. Mais je ne t'ai pas laissé faire. Et c'est bien moi qui ai emporté la partie lors de mon passage en réa. Te souviens-tu de cette nuit interminable où, après 4 jours de coma, j'ai lité des heures durant pour ne pas m'endormir de peur de replonger dans le noir. Cette fois-là, c'est moi qui ai gagné. Et c'est aussi là que j'ai compris qu'on allait devoir s'allier, toi et moi. On avait beaucoup de chemin à faire, surtout avec la rechute qu'on s'est offerte. Alors autant s'entendre. J'ai donc appris à te connaître, te sentir, te comprendre. Je me souviens avoir fini par t'admettre en acceptant que je devais réapprendre à marcher normalement à chaque sortie d'hospi, en acceptant que j'aurais besoin d'aide pour finir ma licence et 1 an de plus pour mon master, en acceptant que je ne passerais pas les auditions du conservatoire, en acceptant aussi que je n'emménagerais pas avec mon fiancé car il n'y a pas d'ascenseur dans son immeuble. On est presque devenus amis à force. J'ai appris à prendre soin de toi, à te laisser un peu de place, même si je m'en voulais d'être un fardeau et de ne pas avancer assez vite. Une fois sortie de l'hôpital, tu prenais tout autant tes aises et je devais organiser mes journées en fonction de toi. Un repas qui traîne en longueur ? Allez hop, sieste à l'apéro et sieste au fromage, qu'à cela ne tienne. Je finissais par en rire. De toute façon, tout le monde se pliait à tes caprices. Tu m'as même permis quelquefois d'échapper à une visite inopportune, un événement barbant ou un oral à la fac. Bref, avec un peu d'aide, on pouvait s'arranger. Mais le vrai problème avec toi, Fatigue, c'est que tu ne sais pas te contrôler une fois installé dans la tête. Combien de fois tu m'as chuchoté que ce serait tellement plus simple d'en finir, de m'endormir profondément pour enfin me reposer. Avoue que tu me shootais à coups de dépression. Je sais bien que c'est de cela dont il s'agit. C'est bien pour ça que je m'effondrais lorsqu'un soignant, face à mon désespoir, tentait de me rassurer sur les bons côtés de ma vie. Il y a bien eu la psychologue qui m'a proposé des antidépresseurs. Mais j'ai eu peur que tu redeviennes mon ennemi, que tu prennes le dessus même sur les bons moments. Parce qu'il y en a eu pendant ces longs mois. Et tu sais quoi ? Aujourd'hui, c'est eux que je retiens, que je classe dans mon album. Je vois bien que tu es présente sur toutes les photos, dans les cernes et les sourires là. Mais ce ne sont pas que les miens, tous ceux présents sur ces clichés les arborent. Peut-être, au fond, était-ce toi, la photographe, le témoin de cette maladie devant laquelle tant de personnes se sont croisées. Je ne peux donc pas t'en vouloir, Fatigue, au contraire. Tu m'as beaucoup appris, sur moi et mes limites, mais aussi sur les autres et le fonctionnement de notre monde usé, si souvent à bout de souffle, lui aussi. Mais c'est une autre histoire. Ma chère Fatigue, ceci n'est pas une lettre d'adieu. On se reverra, c'est certain. Si tout va bien, tu m'attendras sagement au bout du chemin. Mais en attendant, reste discrète, s'il te plaît. Ne t'en fais pas, je ne t'oublierai jamais. Bien à toi, Viviane. Merci. Voilà ce que je voulais partager avec vous, en espérant que vous y trouverez matière à penser, à partager, à relier et qui sait, pourquoi pas, à sublimer. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ce témoignage émouvant, et qui nous montre le difficile chemin et le temps, le facteur temps, si important pour pouvoir composer petit à petit avec cette fichue fatigue, hein, et pour en faire, non pas une alliée, mais en tout cas une connaissance qui ne soit pas trop intrusive, envahissante et dérangeante, en tout cas le moins possible. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Alors nous avons un moment pour quelques questions, quelques réflexions venant de vous, Éric Fiat se proposera, j'imagine, aussi volontiers pour intervenir à la suite de ces deux propos. Y a-t-il des mains visiblement levées ? Oui.
Je serais très curieuse d'avoir un peu plus d'informations sur la grille d'évaluation de la fatigue. Quand j'ai entendu parler de ça, je me dis « Oh, j'en ai jamais entendu parler de ce truc-là ». Alors, par exemple, est-ce que vous, lors de votre maladie, on a utilisé cette grille d'évaluation de la fatigue, ou pas ? Et un peu, bah, quelle tête est là ? Comment elle se compose ? Voilà. C'est de la pure curiosité.
Moi, j'en ai pas le souvenir. Après, ça s'est peut-être fait sans que je le sache. En tout cas, on me demandait souvent comment je me sentais, si j'étais fatiguée. J'ai jamais vu personne sortir une feuille et un stylo, à part pour les entrées. Mais voilà, donc je sais pas. Peut-être que Rachel pourra répondre.
Alors, la grille d'info, la grille d'évaluation de la fatigue, on la retrouve sur le site de l'AFSOS, l'association française des soins de support, je ne sais plus exactement pour l'acronyme, mais vous le retrouvez sur AFSOS, A-F-S-O-S. C'est la grille de Piper. C'est très... Il y a un arbre décisionnel, il y a des questions type à poser, et il y a un score. Et au regard de ce score, le patient est moyennement peu, très fatigué, voire exténué. Et au regard de cela, on envisage la mise en place des soins de support les plus adaptés aux patients. Donc, quand Viviane est passée dans notre unité, la grille n'était pas mise en place. Moi, je l'ai découvert il y a très peu de temps. Donc, il y a un projet de reformalisation de la fiche Piper parce qu'elle est faite pour les adultes. Et donc, il faudrait qu'on la retravaille pour les ados et la pédiatrie. Je n'ai pour le moment pas trouvé de fiche évaluation pédiatrique, mais je pense qu'il doit en exister quelque part. On n'est pas la seule unité d'ados ou d'enfants à s'être posé cette question.
Et on voit bien à travers ça que, parce que les grilles, les évaluations fleurissent hein, ces temps-ci, combien il est difficile de maintenir un lien utile aux patients entre ce que des études sur des cohortes, etc., peuvent nous apporter comme information et la place que l'on laisse au patient singulier dans l'appréciation de ce qui lui convient hein, ou de ce qui lui convient moins. Et ça va être un équilibre de plus en plus difficile dans la mesure où il y a quand même des pressions fortes pour que les soignants appliquent ce qui a été établi sur un plan collectif, groupal, indépendamment de ce que le patient lui-même pourrait souhaiter. Et là, on a à être très vigilant en tant que soignant pour garder ce qui fonde notre métier, c'est-à-dire la relation humaine avec la singularité de chaque histoire.
D'autant que cette grille d'évaluation, elle va varier dans le temps par l'appréciation du patient. Un patient qui a un primo-cancer va grader sa fatigue et elle sera acceptable ou pas. Et si malheureusement il rechute, voire qu'il est en situation palliative, peut-être la graduation en situation d'échec ou palliative va être bien différente de la graduation initiale. Le patient aura cheminé, aura, comme dit Viviane, appréhendé d'autres modalités de vie, que ce soit à l'hôpital ou à domicile, et donc ces difficultés du moment peuvent être bien différentes d'une semaine sur l'autre avec les mêmes symptômes. Voilà. La fatigue psychique va potentialiser la fatigue ressentie. Et donc, il peut y avoir une escalade ou une désescalade de jour en jour ou de semaine en semaine.
Oui, au premier rang.
Moi, c'est très personnel. J'ai suivi une petite leucémique à la maison. Enfin, elle était une semaine en chimio, une semaine à la maison. Et donc, moi, j'ai vu sa maman et elle. Et en fait, je me disais, mais la maman va pas bien du tout. Et patatras. Elle est rentrée, elle est guérie, enfin pas guérie, mais enfin elle est en rémission, et sa maman maintenant qui est malade. Alors je me demandais si vous aviez quelque chose pour les parents, est-ce que vous les accompagniez dans ces cas-là, parce que du coup, voilà, une malade maintenant, une autre malade.
Ah, c'est une petite qui réside sur quelle zone géographique ?
Elle était avec Hélène, je ne sais pas, elle est là, Hélène ? C'était
à Curie. Oui. Alors les patients de Curie peuvent être, si elle était mineure.
Ah oui, oui, elle passait son bac.
Voilà. Donc les mineurs sont incluables au RIFOP, le réseau Île-de-France en onco-hématopédiatrique, et ils ont des relais avec des numéros de téléphone de psychologues de proximité qui peuvent prendre le relais. Bien évidemment, ça ne va pas régler toutes les difficultés, mais ça peut être une façon, la verbalisation peut permettre parfois d'atténuer les difficultés, non pas de l'enfant, mais aussi de l'accompagnant, du parent. Il y a des établissements aussi qui proposent des groupes de parole d'aidants. Nous, sur Saint-Louis, nous n'en avons pas, mais ça existe dans certains établissements. Et c'est souvent très bienveillant parce que il y a un modérateur qui est là, tout ce qui est déposé, tout ce qui est dit reste là, et ça permet à ces familles, à ces aidants de pouvoir avoir une oreille attentive, parce que lorsqu'ils rentrent à la maison, ils ont leur enfant qui est malade, ils ont, comme je vous le disais tout à l'heure, une vie professionnelle à parfois continuer de maintenir, d'autres enfants à gérer, et ces parents sont très malmenés dans le sens où ils veulent être le plus près possible de leurs enfants, ne pas les étouffer de leur présence continuelle, et puis ne pas oublier la fratrie, voire le conjoint. Donc ces parents, on leur demande énormément d'investissement, et on se rend compte que tant qu'on est dans la période curative, ils tiennent un peu le coup. Et lorsqu'enfin on s'éloigne de la phase thérapeutique active et qu'on est dans la rémission, là ils se permettent de lâcher, et on a des familles qui s'écroulent, malheureusement parfois même des séparations de parents, parce que l'impact est très important.
Ça, cette piste est évidemment essentielle. Les groupes de parents, quand ils existent, c'est extrêmement précieux, dans la mesure où, en plus, ça permet à ces parents de se sentir moins seuls face aux questions auxquelles ils sont confrontés, et de pouvoir bénéficier, d'une certaine manière, de la manière dont les autres parents présents dans le groupe peuvent vivre ou avoir vécu ou avoir trouvé des solutions à leurs questions.
Les groupes de parole permettent aux aidants d'avoir le sentiment d'être moins isolés. Il n'y a pas qu'eux qui ont vécu cela. C'est malheureusement la généralisation de l'impact sur les aidants et la famille. Et dernier point, je crois qu'on sera aussi dans la bienveillance en mettant en place quelque chose qui est demandé par les ARS, le PPAC, le plan personnalisé de l'après-cancer, pour voir à distance des thérapeutiques, une fois que le patient est en rémission, à distance de sa pathologie, refaire un focus d'ordre médico-bio-psychosocial pour évaluer les difficultés qui perdurent dans le temps et pouvoir éventuellement, là encore, il faut avoir des réponses, et on voudrait toujours avoir des réponses, mais proposer un accompagnement sur le long terme. Voilà.
Bonjour. J'ai deux questions à vous poser. Une question un peu d'ordre personnel, même si ce n'est pas moi que ça touche. En fait, j'ai une amie qui a une fatigue chronique, qui dort, je crois, 12 à 15 heures par nuit. Alors, elle est suivie, ça, on ne sait pas très bien ce qu'elle a, enfin bref. Et en fait, comme vous disiez tout à l'heure, Eric Fia, quand on est très fatigué, on a besoin parfois de tendre la main. Et donc, moi, parfois, elle me tend la main, je vais la voir. Et en fait, je ne sais pas quoi lui dire. Je lui dis, ah bon, ça dure depuis des semaines. Et donc, je voulais savoir si vous aviez des conseils par rapport à ça. Et l'autre question, j'anime par ailleurs la ludothèque du SAPA, donc à domicile. Et je voulais savoir comment peut-être détecter la fatigue chez les enfants, et comment mieux m'adapter à mon travail peut-être, ou en tout cas comment la détecter. Voilà mes deux questions.
Bon, je peux dire deux mots et puis vous compléter. Hein. Sur l'hypersomnie, il y a quand même des consultations spécialisées, hein, des services spécialisés, parce que ça peut être lié à de multiples facteurs, hein, parasitaires jusqu'à neurologiques. Et donc, ça vaut vraiment la peine de faire profiter votre ami d'une exploration, si ça n'a pas été le cas, qui peut-être trouvera un remède assez simple. Peut-être. Quant à la fatigue de l'enfant, le problème chez l'enfant et l'adolescent, c'est que la fatigue ou d'autres difficultés ne se manifestent pas toujours comme chez l'adulte et que donc les allures peuvent être trompeuses, par exemple l'agitation, la dispersion, l'instabilité, etc. peuvent être des signes de fatigue, beaucoup plus souvent d'ailleurs que je suis fatigué, j'ai sommeil, même si ça arrive aussi. Donc c'est extrêmement varié et ça va être une question d'expérience pour pouvoir évaluer derrière un trouble du comportement, par exemple, un état de fatigue chronique chez un enfant, hein, qui manque de sommeil puisqu'il se couche trop tard, parce qu'il ne dort pas assez par rapport à ses besoins, parce qu'il est envahi par les lumières bleues encore très tard le soir face aux écrans et que du coup le sommeil est plus difficile à venir, etc. etc. Donc attention, les manifestations sont très trompeuses et on pourrait dire que presque tout peut signer éventuellement un manque de sommeil. Donc il n'y a pas du tout d'éléments indicateurs simples, vous voyez.
Pour ce qui est de l'ordre de l'accompagnement de la personne, j'ai envie de vous dire que nous, infirmières, nous ne sommes pas formés à appréhender la fatigue du patient. Ça semble bizarre, mais dans notre cursus, on n'a pas la thématique fatigue. Je crois que ce qui est le plus important, c'est l'écoute. Savoir qu'on peut avoir quelqu'un vers qui tendre la main et qui va être présent, écouter votre discours, faire preuve de bienveillance. Je crois que la bienveillance est la meilleure des pommades, même si on n'a pas, là encore, de réponse sur ta fatigue, elle est liée à ça. Être présent, être dépositaire de ce qui ne va pas, soulage déjà le patient.
Donc, même si ce n'est pas le remède, ça ne peut pas faire de mal.
C'est ça. Mais en faisant ça, je pense que la fatigue psychique va s'apaiser parce qu'il y a une écoute attentive. Alors, qu'elle soit faite par un professionnel, psychologue, psychiatre, psychanalyste, super. S'il n'y a pas, moi, je travaille dans un service où la nuit, il n'y a que 4 infirmières. Eh bien, les infirmières sont là, elles sont dépositaires de cette parole qui est tendue, qui est donnée. Elles vont essayer de mettre en place des stratégies toutes simples, comme des massages. On a été formé au toucher-massage et le massage le soir, lorsque le patient vous dit « j'arrive pas à dormir », d'accord. Il ne faut pas penser systématiquement à dégainer le cachet en disant « tiens, prends tel médicament, ça va t'aider, tu vas dormir ». S'asseoir à côté du patient, l'écouter, discuter. Laisser des blancs dans la discussion, laisser le temps au patient d'exprimer ce qu'il a à dire et puis de faire cette petite introspection parce que souvent il a la réponse lui-même sur ce qui ne va pas. C'est bienveillant. Proposer un massage à un patient qui accepte le toucher, c'est bienveillant. Profiter du temps où le patient est là et lui dire « veux-tu une tisane ?» Quelque chose de chaud qui va t'apaiser et qui va t'aider à l'endormissement. On est déjà dans la bienveillance. L'arsenal n'est pas qu'un arsenal pharmacologique. Voilà. Il y a plein d'autres modalités d'accompagnement et d'aide.
Une dernière question, puis je propose qu'on laisse Éric Fiat conclure peut-être à partir de tout cela, même s'il nous dira certainement qu'on ne conclut que rarement.
Allez, bon, question très simple. Qui décide du retour à l'école ? J'ai eu 2 expériences. Un jeune qui était en seconde, et la maman voulait absolument, absolument, absolument qu'il retourne à l'école. Donc il est retourné au lycée, effectivement. Et j'ai cette année une jeune qui ne retourne pas au collège. Le collège ne la connaît pas. On ne peut pas causer de collège avec la maman, ni avec la jeune qui n'a plus de contact. Ça fait 1 an que ça dure. Qui décide ?
Alors, normalement, le jeune qui est transitoirement déscolarisé du fait de sa pathologie doit présenter ou un bulletin de situation ou une attestation médicale justifiant de son absence dans son établissement. Il devrait y avoir une liaison qui est effectuée avec l'infirmière scolaire ou le médecin scolaire pour que on envisage ensemble les modalités de retour dans l'établissement scolaire. Là aussi, il faut envisager que le jeune qui revienne dans l'école puisse avoir éventuellement un régime alimentaire adapté, un accès aux ascenseurs qui sont réservés pour les personnes à mobilité réduite. Donc ce travail se fait par l'institution normalement hospitalière, voire l'école à l'hôpital. Nous, on a Corinne qui appelle aussi les établissements. Ne confondons pas ce que j'appellerais les mamans tigres, hein, ce qu'on voit en Asie de ces mamans, c'est souvent les mamans, rarement les papas, qui décident à la place de leurs enfants, tu vas passer ton bac, tu vas passer tes épreuves à telle date, et on fait fi du ressenti du patient. Ce n'est pas la mère qui sera devant sa feuille de cours et sa feuille d'examen. C'est un travail de médiation qui va devoir être réalisé entre le personnel de l'établissement hospitalier, les parents, le jeune et l'école. Le RIFOP est là aussi pour faire cette triangulation entre les modalités de retour dans l'établissement scolaire et la famille et le SAPAD ou l'APAD du département. Un patient qui retourne dans l'école, moi je le vois, on a beaucoup d'infirmières scolaires qui nous demandent de mettre en place un PAI, un plan d'aide individualisé. Le PAI, c'est un acte médical. Donc, en fait, ce n'est pas le parent qui décide que l'enfant va aller à l'école, c'est le médecin qui, au regard de la situation médicale de l'enfant ou de l'adolescent, donne son accord pour une reprise scolaire.
Et puis, ça se pose différemment si le jeune a moins ou plus de 16 ans, évidemment.
J'ai répondu à peu près à vos attentes.
Vous pourrez continuer à échanger. Éric Fiat, avant que nous concluions cette matinée.
J'ai été très sensible à la finesse de l'exposé de Rachel et assez bouleversé par la lettre de Viviane. Dans votre exposé, Rachel, je trouve qu'on sent bien à quel point ce métier de soignante est un métier à la fois merveilleux et difficile. Et c'est vrai que il est vrai qu'un des problèmes qu'on a aujourd'hui dans le monde hospitalier, c'est sa protocolisation, sa procédurisation, sa technicisation, sa mécanisation. Je ne dis pas du tout de mal des techniques, des mécaniques, des protocoles et des procédures. Ils sont très utiles aux soignants et font le bon soignant. On ne serait pas un bon soignant si on ne connaissait pas les techniques, les mécaniques, les protocoles et les procédures qui guérissent ou du moins soulage. Mais ce qui est dangereux, c'est la réduction du soin à une technique, à une mécanique, à un protocole et à une procédure. Procédurisation, protocolisation, technicisation, mécanisation. Et beaucoup de soignants, en effet, en souffrent autant que les malades, voyez, de ce mécanisme-là, de cette mécanisation-là. Et je vois comment vous y résistez. Cette protocolisation, cette procédurisation du soin n'a jamais été mieux décrite que par Jean Cocteau dans son journal de La Belle et la Bête. Pendant qu'il tourne La Belle et la Bête, Cocteau tombe très malade, mais a encore la force de tenir son journal. Et ce journal, le journal de La Belle et la Bête, Jean Cocteau, a été récemment réédité aux éditions du Rocher. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Et je crois qu'il y a deux pages qui ne peuvent pas ne pas vous intéresser. Si ma mémoire est bonne, la première, c'est le 15 septembre 1945, où Cocteau décrit ce que c'est que la souffrance. Et il dit, il m'est arrivé de parler de la souffrance quand je ne la connaissais pas. Alors je pouvais la couler en de belles images, je pouvais poétiser, je pouvais nervaliser. J'adore ce néologisme, c'est un hommage par Cocteau à cet autre poète, Gérard de Nerval, qui, vous le savez, fait partie de ces poètes qui parlent très bien de la souffrance, mais... Je suis le veuf, le ténébreux, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Mais comme dit Cocteau, quand on souffre, on ne nervalise pas. Il m'étonnerait que les patients que vous voyez, vous allez bien ? Je suis le veuf, le ténébreux. Non. Et Cocteau dit, souffrir, c'est tout autre chose. Souffrir, c'est ce qui fait un être se recroqueviller au coin de la chambre, appeler n'importe qui, n'importe quoi, ne plus pouvoir parler qu'en langue de bête. Et souvent, la langue qu'on a, quand on souffre vraiment, ce n'est plus la belle langue poétique ou philosophique. C'est le cri, le gémissement, le halètement ou le grand silence. La plupart des bêtes n'ont pas de voix. Alors Cocteau souffre, il appelle, on tourne la page et il écrit justement cette protocolisation. Voilà ce qu'il écrit, si ma mémoire est bonne. Étrange psychologie que celle des bonnes sœurs. C'était des bonnes sœurs qui soignaient à l'époque. Étrange psychologie que celle des bonnes sœurs. Les bonnes sœurs ne sont pas vraiment bonnes. Elles remplacent la bonté par un mécanisme de bonté. On appelle, c'est un automate vêtu de blanc qui entre dans la chambre, la range et en sort. Les bonnes sœurs ne soignent pas le malade, elles soignent la chambre du malade, dont le malade n'est qu'un élément parmi d'autres. Toute attention à la singularité, du cas du malade dérégleraient le mécanisme et leur sembleraient un crime de lèse-majesté par rapport au médecin-chef ou à la mère supérieure. Cette page est géniale. Alors bien sûr, il faut l'actualiser, ce n'est plus des bonnes sœurs, des soignantes, ce n'est plus un médecin-chef, c'est un chef de pôle, ce n'est plus une mère supérieure, c'est la cadre supérieure infirmière. Mais ce que décrit Cocteau est peut-être encore plus vrai à notre époque qu'à la sienne, parce qu'à l'heure de la T2A, tarification à l'activité, on a l'impression justement que seules sont activités soignantes, les activités que l'on peut coder, comme vous dites, et comme le disait Patrice tout à l'heure, ce qui fait les frais de cette protocolisation, c'est la singularité, l'unicité. Le singulier, c'est l'unique, l'irremplaçable, le sans pareil. Et je vois comment Rachel à la fois nous dit les bons protocoles, les bonnes procédures, les bonnes techniques pour prendre en charge la fatigue, et je vois aussi comment elle essaie d'introduire toujours un je ne sais quoi, un presque rien, pour justement que ça ne se limite pas à du protocolaire, du procédural. Et c'est ce que vous faites notamment alors en vous invitant en nous invitant à nous soucier des aidants, comme on les appelle aujourd'hui, hein, parce que c'est vrai que la surrection, l'effraction de la maladie dérange toute la maison, hein. Elle ne touche pas que le patient, elle touche aussi les autres. Alors, ce serait scandaleux d'oublier que la maladie touche d'abord le patient, mais ce serait imprudent d'imaginer d'oublier qu'elle touche aussi le proche, hein, créant une turbulence dans toute la maison. Alors une imprudence, c'est chose moins grave qu'un scandale, mais en effet nous avons été très imprudents en oubliant cela. Alors en même temps, là encore, j'ai peur que se remettent en marche des protocoles, des procédures, des techniques pour aider les aidants. D'abord, est-ce que ce sont vraiment des aidants? On est le papa, la maman, l'amoureux, le fils, la fille. Est-ce que aidant, ce n'est pas déjà une sorte de violence qui est faite aux proches qui accompagnent son patient? Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un aidant? Est-ce que c'est un autre soignant? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre que le soignant, voyez? Et donc voilà pourquoi je crois très important à la fois de dire l'utilité indispensable de tous ces bons protocoles, ces grilles, mais aussi de dire que pour être vraiment attentif à la singularité de la fatigue de chaque patient, il y a peut-être toujours quelque chose, une vigilance à avoir. Et transition, cette vigilance, il me semble que le témoignage de Viviane nous la donne, parce que tout à l'heure. Patrice, vous parliez du jeu, mais le mot jeu, il a deux sens. Alors il a le sens que vous lui donnez dans votre ludothèque, mais il a aussi un sens, le mot jeu, chez les bricoleurs. Il y a du jeu, ça veut dire il y a de l'espace, ça veut dire il y a de l'espace pour le possible, c'est-à-dire il y a des choses à inventer, il y a de la créativité à voir. On peut, le problème de l'extrême fatigue, c'est que quand on est complètement crevé, on n'en peut plus, justement il n'y a plus de jeu, voyez, on est dans l'impossible. Et voilà pourquoi il est, je trouve, magnifique que le témoignage de quelqu'un qui a connu l'extrême fatigue et qui finalement s'en est sorti soit le témoignage d'une comédienne, de quelqu'un qui nous dit à quel point, tant qu'on peut jouer, eh bien, il y a encore quelque chose comme de l'espoir. Pendant longtemps, vous n'en aviez plus, et à un certain moment, vous avez eu l'impression que le moment était venu d'arrêter de jouer complètement, parce que vous savez qu'il y a une grande proximité entre le sommeil et la mort, hein. La mort est un sommeil sans rêve, disait Platon. Et c'est vrai qu'un homme qui dort et un homme qui est mort, ça se ressemble beaucoup. Entre le comateux et le mort, parfois, notre société ne voit pas de différence. Et pourtant, il y a une différence capitale. C'est que quand on est mort, on n'a plus du tout de jeu, on ne peut plus du tout jouer. On n'a plus de possible. La mort, c'est l'impossibilité du possible, disait Heidegger. Alors que tant qu'il y a de la vie, il y a du possible. Oh, je ne dirais pas qu'il y a de l'espoir. Parfois, il y a des moments de désespoir. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a du possible. Se résumerait-il à une toute petite possibilité? Et c'est, pardon, je vous embête avec mes poètes, mais c'est Rimbaud qui montre bien la différence entre un endormi très profondément et un mort. C'est dans le Dormeur du Val. Pendant tout le poème, on croit qu'il dort. Hein, c'est, bon. Mais à la fin, on comprend qu'il a deux trous rouges au côté droit. Et donc, ce n'est pas qu'il se repose, c'est qu'il repose. Il ne dort pas, il est mort. Ceci dit, il nous l'avait déjà dit avant Rimbaud qu'il était mort, parce qu'il nous a dit « les parfums ne font plus frissonner sa narine ». Quand on sera mort, les parfums ne feront plus frissonner notre narine. Tant qu'on est vivant, il y a ces petites choses. Et c'est ce à quoi vous avez été attentif qui vous a permis d'échapper à la tentation à un moment, allez, de tout laisser tomber. Et à ce moment-là, bah oui, moi je trouve que votre exposé consonne au fond à ce que j'ai essayé de dire, parce que j'aime beaucoup la formule de Lévinas qui disait « la spéculation sera toujours en retard sur le témoignage ». Parce que moi j'ai fait de la spéculation, mais au fond on a dit la même chose. Quand vous dites que vous êtes révolté, ensuite que vous avez trouvé le moyen non plus de lutter contre elle, mais de l'assumer pour vous en faire une alliée. Mais il se trouve que malheureusement aujourd'hui, il y a eu la spéculation d'abord et puis le témoignage à la fin. Il faudrait recommencer toute la journée et que vous commenciez et que vous ayez plus de temps, plus de temps que vous n'en avez eu, et que moi je termine en ayant moins. Donc c'est le moment de me taire.
Merci. Bien, eh bien, écoutez, suspension temporaire en vue de satisfaire les appétits dans la salle d'à côté. Et merci à nos trois intervenants.